et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mères entrepreneurs multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, experte en stratégie de contenu et email marketing et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à créer du lien avec leur audience grâce à une communication authentique. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Si aujourd'hui tu peux écouter ce podcast, c'est grâce à la communauté OREMA, un espace positif à destination des mères entrepreneurs, mêlant le réseau professionnel et la communauté d'entraide. Alors rejoins-nous et sors de la solitude de l'entrepreneur en te rendant sur orema.fr/communauté. Pour ne manquer aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Bonjour, bonjour, bonjour mesdames, bonjour aux auditrices qui sont déjà là. Bienvenue, bienvenue à toutes et merci de nous avoir rejoints pour cet échange. Alors, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Lauriane, je suis experte en stratégie de contenu et en email marketing. J'ai créé le podcast et la communauté OREMA pour les mères entrepreneurs. J'ai proposé aujourd'hui cet échange parce qu'en fait, je suis maman de deux et je suis aussi maman aidante parce que j'ai un petit garçon qui est en situation de handicap, qui en manque d'autonomie et qui a besoin de moi pour l'aider au quotidien. Au départ, je me sentais un peu, un peu isolée, un peu seule. Je pensais que j'étais peut-être la seule à avoir ces particularités-là et j'ai échangé surtout avec des mamans entrepreneurs et c'est après avoir rencontré d'autres personnes dans la même situation, dont Élodie, Marie-Émilie et plus tard Sandra, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était toute une spécificité à part. Et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir échanger avec elles toutes aujourd'hui. Le thème de notre échange du jour, c'est les parents aidants et surtout les mamans aidants, puisque nous sommes des mères et entrepreneurs à la fois. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat des mamans aidantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Marie-Émilie, Sandra et Élodie. Et si vous voulez bien, mesdames, je vais vous distribuer la parole pour que vous puissiez vous présenter l'une après l'autre. Alors, est-ce que Sandra, tu voudrais commencer et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais?
Donc, je me présente, Sandra Bouira, ancienne cadre dans l'audit de grandes entreprises et maman de deux enfants, dont Kémil, qui est atteint d'une maladie génétique rare et qui est donc en situation de polyhandicap. J'ai été gérante d'une coopérative solidaire, j'ai créé un tiers-lieu et je suis surtout et encore présidente de l'association Kémil et ses amis depuis 15 ans, qui mène des projets de réparation citoyenne en faveur des familles d'enfants en situation de handicap. Donc on a vraiment abordé plusieurs sujets nombreux, donc on aura peut-être le temps de parler un peu plus tard.
Merci Sandra. Voilà, tu fais pas mal de choses. Tu as oublié de parler de Prochain Air, qui est le nouveau projet que porte l'association Kémil et ses amis. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, bien sûr. Après la réalisation d'un documentaire auprès de 16 parents aidants pour toute la France, nous avons décidé de créer le premier réseau d'aidants entrepreneurs, car l'entrepreneuriat est une solution parmi les autres de concilier vie privée et vie professionnelle quand on est aidant d'un proche malade.
Merci Sandra. Élodie, à toi la parole. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Oui, bonjour à toutes. Alors du coup, moi je suis Élodie Pstout-Faucogner, maman aidante de trois enfants, actuellement consultante handicap en reconversion. Ça fait 3 ans que j'ai fondé l'association Les Jardins de Pipa, qui est une association qui vient en aide, en soutien aux parents aidants. On propose des ateliers et des accompagnements de soutien à la parentalité et de répit. Voilà, donc j'ai connu l'handicap, on va dire, par la force des choses, en ayant mon premier garçon qui a 19 ans aujourd'hui, qui a des difficultés de troubles neurodéveloppementaux 10, sévères, et ensuite par mon deuxième qui a un handicap du trouble du spectre de l'autisme. Voilà. Donc, par la force des choses, je me suis reconvertie en tant que chef de projet handicap pour pouvoir justement concilier cette vie de maman aidante et entrepreneur. Actuellement, je suis encore en formation d'ingénierie pédagogique pour monter des structures de formation handicap.
Merci, merci beaucoup, Élodie. Et pour terminer, Marie-Émilie, je te laisse la parole pour nous dire un petit peu plus voilà, qui tu es, ce que tu fais, et la parole est à toi.
Eh bien, je suis Marie-Émilie, je suis Customer Care Manager, je crée des expériences personnalisées pour les coachings de groupe, et je suis aussi la maman d'un petit garçon de 8 ans qui est autiste non neuralisant. Je suis aujourd'hui entrepreneuse pour pouvoir m'occuper de lui et lui accorder tout le temps dont il a besoin pour l'accompagner lors de ses soins et de ses thérapies.
Merci Marie-Émilie. Alors en fait, c'est aussi bien les échanges que j'ai eus avec chacune d'entre vous et pour compléter un peu le panel et les échanges que j'ai pu avoir, il y a aussi, je voulais citer aussi Sandra de l'association Nos Enfants Extracapables qui fait aussi un travail formidable autour de la sensibilisation sur le handicap. Donc ces échanges-là, moi ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait réfléchir et je suis aussi tombée grâce à Sandra Bura qui est là aujourd'hui sur l'étude nationale sur les parents aidants qui a été initiée par les bobos à la ferme. C'est une étude qui a été menée auprès de plus de 1700 répondants et il y a des chiffres qui sont ressortis qui sont vraiment parlants, qui sont vraiment alarmants. Et en termes d'aidants, il y a différentes catégories d'aidants, en fait. Il y a les parents aidants dont nous sommes, mais il y a aussi les enfants aidants, parce qu'avec une population vieillissante, il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui sont en charge de s'occuper de leurs parents. Et tout ça a forcément un impact sur leur vie professionnelle. Il y a notamment Christelle Evita, qui est très active sur LinkedIn, qui parle de ce sujet. Donc, il y a les parents aidants, il y a les enfants aidants. Il y a aussi les conjoints aidants, parce que malheureusement, il y a des accidents de la vie qui peuvent faire de nous l'aidant de notre partenaire de vie. Donc, il y a différents aidants. Mais nous, on va parler de notre situation à nous, parce que c'est ce qu'on connaît, ce qui fait partie de notre quotidien, en fait. Donc, en tant que tel, nous, on a quand même des obstacles qui sont spécifiques et qui entraînent forcément un déséquilibre entre notre vie professionnelle et nos responsabilités d'aidant. L'idée, c'est de voir comment est-ce que nous, on navigue au milieu de tout ça et est-ce qu'il y a aussi des solutions? Qu'est-ce qui est à notre disposition aujourd'hui pour arriver à atteindre un équilibre? Voilà, en tout cas, peut-être pas atteindre parce que c'est un peu idéalisé, mais en tout cas, tendre au maximum le plus possible vers cet équilibre. Parmi les difficultés que j'ai relevées, il y a tout ce qui est autour de la gestion du temps et des imprévus. Est-ce que Sandra, toi, tout ce qui est autour de la gestion du temps et des imprévus, est-ce que c'est quelque chose qui est une difficulté pour toi aujourd'hui? Et est-ce que tu arrives à mettre des choses en place pour t'en sortir un petit peu avec ça?
Au vu de la superposition de nos responsabilités que tu as énumérées, c'est en effet une priorité, en tout cas, à réfléchir et à penser. Par contre, j'ai fait un travail sur moi. J'ai accepté l'imperfection. Je ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Je cherche déjà dans un premier temps à atteindre des objectifs. Évidemment, pour tout ce qui est en lien avec la parentalité, le mode de garde est un vrai sujet. C'est très souvent ce pourquoi, quand on est sans solution, on s'arrête de travailler. Donc, c'est une chose aussi que j'ai appris à formuler de l'aide, mais avoir un recours extérieur. Dans mon cas, et parce que Camille aujourd'hui a 17 ans et une aide à domicile qui me permet en fait de m'extraire de chez moi pour avoir des rendez-vous d'ailleurs aussi bien gros que personnels. Donc, dans mon cas, c'est passé par une réorganisation, une aide extérieure et je vais à mon rythme. Tu parlais d'équilibre, l'idée de rester dans cet équilibre et de ne pas souffrir de cette charge mentale qui est jamais loin d'un stress et d'un mal-être qu'on peut frôler assez souvent dans nos vies.
Et toi, Élodie, est-ce que tu as mis en place des stratégies pour arriver un peu à gérer ton temps? Surtout que tu fais pas mal de choses en même temps entre voilà, l'association, les études que tu as reprises pour te réorienter, pour te spécialiser. Où te situes-tu aujourd'hui par rapport à ce sujet-là?
Alors du coup, c'est un grand défi pour moi qui du coup m'a demandé en fait le temps d'une pause de m'arrêter en fait. J'ai eu besoin de pouvoir, comme le disait Sandra, réorienter les priorités, puis apprendre alors à demander de l'aide effectivement, mais surtout me faire accompagner également pour pouvoir trouver une certaine autonomie dans les différentes sphères de ma vie. Donc voilà, c'était vraiment un apprentissage pour vraiment reconnaître quels étaient vraiment les besoins prioritaires, surtout de mes enfants, et mettre en priorité mon bien-être et trouver cette harmonie, cet équilibre qui nous fait parfois défaut. J'ai l'impression quand on a un peu la tête sous l'eau au départ. Et voilà, donc maintenant, je pourrais dire que c'est un apprentissage constant où il faut toujours se re-questionner sur ses besoins. Et voilà.
Merci Élodie. Et toi, Marie-Émilie?
Bien, moi, c'est encore un apprentissage de chaque jour. J'ai la chance d'avoir c'est même pas une chance, c'est que quand je prends des clientes, quand je prends des contrats, je préviens toujours de ma situation. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir gérer les imprévus. C'est que toutes mes clientes sont au courant. J'essaye de faire au mieux pour que ça n'impacte pas mon travail. Je dors pas beaucoup quand c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ma nièce qui est venue me soulager quelques mois avec en me donnant de l'aide pour mon fils, mais c'est vrai que la plupart du temps je suis toute seule, donc c'est encore quelque chose que j'apprends à faire, trouver le bon équilibre, et je ne sais malheureusement pas si un jour je le trouverai.
Là, ce qui ressort un petit peu de tout ce que vous avez dit, c'était vraiment cette idée de demander de l'aide, puisque voilà, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, on est face à une situation qui est challengeante, donc ne pas hésiter à formuler une demande d'aide, parce que il y a certaines choses qui peuvent être mises en place, aussi bien au niveau, on a parlé de, tu as parlé Marie-Émilie, de solidarité familiale, mais il y a aussi un peu tout ce qui est autour des maisons, des aidants qui peuvent éventuellement proposer des choses pour nous soulager, nous assister au moins ponctuellement. La deuxième difficulté dont j'avais envie de parler aujourd'hui et qui est centrale, c'est celle des ressources financières, et c'est le cœur un peu de la problématique, parce que au départ, beaucoup d'entre nous, beaucoup de parents aidants étaient salariés et se retrouvent, alors il y a quand même la moitié des parents interrogés dans l'étude qui ont perdu leur emploi suite à l'annonce du handicap de leur enfant, donc c'est énorme. Donc l'impact sur la carrière des parents aidants est quand même vraiment important. S'ensuit une perte de revenus. Donc finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder un certain rythme de vie, un certain confort de vie, une certaine autonomie financière suite à la perte de notre emploi ou bien suite à notre éloignement du monde du travail lié au handicap de notre enfant. Sandra, j'ai entendu que tu as assez rapidement entrepris à la création du tiers-lieu, l'association qui est Mélie ses amis. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment cette question des ressources financières est gérée aujourd'hui de ton côté?
Mon fils a 17 ans, donc les choses se sont vraiment faites, on va dire, de manière graduelle. Au départ, ça a été pour ma part une réduction de travail, ensuite une cessation complète pour m'occuper de mon fils qui était d'ailleurs sans solution pendant plus de 11 ans. J'ai d'abord entrepris, on va dire, socialement grâce à l'association Kevin et ses amis. Ensuite, j'ai créé une coopérative solidaire, et c'est quand mon mari s'est fait licencier qu'on a repensé notre manière de nous organisé autour de nos enfants et donc de Kenil. Et là, ensemble, nous avons créé le tiers-lieu qui, il faut l'avouer, était dans un premier temps une urgence pour moi, pour me donner un statut, puisque rester sans travailler pendant 10 ans,
Je le dis souvent quand je suis interviewée, c'est que je me suis même retrouvée comme mes enfants à l'époque sur la sécurité sociale de mon mari. Donc, c'est une vraie invisibilisation de mon rôle que j'avais pas choisi, enfin, que j'ai subi en tout cas. Et en fait, c'est cette création d'entreprise qui est certainement, hein, je pense aussi facilitée par le fait que je suis diplômée de comptabilité et de gestion. Donc, tout ce qui est juridique, financier, administratif, ce sont des domaines qui ne me font pas peur. Et là, j'ai retrouvé une vie professionnelle et sociale. Hein. Je crois que c'est intimement lié, ces deux dimensions. Cependant, je suis moins riche qu'avant. Il est vrai que j'avais un niveau de vie beaucoup plus important à l'époque où on était deux cadres. Aujourd'hui, c'est plus un équilibre personnel et un alignement avec nos valeurs et qui nous sommes devenus aujourd'hui. Et on optimise, un peu comme les entreprises qui ont le service de fiscalité et de gestion. On repense de manière très fréquente notre organisation professionnelle. Si je peux donner une tendance, tous les 5 ans, on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver et comment on fait? En tout cas, on essaie maintenant, par expérience, d'anticiper. Mon fils va devenir majeur, mais on vieillit. Donc, on a cette constante adaptation et remise en question à faire.
Ça, c'est ce que je retiens justement, ce que tu viens de dire, c'est finalement comment on s'adapte. C'est s'adapter, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans notre, en prenant en compte notre réalité. Comment est-ce qu'on peut s'adapter pour non pas forcément retrouver les revenus qu'on avait avant, parce que c'est peut-être pas possible non plus, mais avoir quand même quelque chose qui nous permette de vivre correctement, quoi.
Aligné en fonction de qui on est devenu. Je pense que on a été toutes marquées par cette expérience qui est très singulière. Et d'ailleurs, dans l'étude que tu citais sur les parents aidants, il est mentionné que lorsqu'il y a reconversion, les aidants ont tendance à se tourner vers des domaines liés au sport, au social et à la santé. Donc, cette reconversion n'est pas anodine, pardon, elle est quand même très en lien avec ce que nous avons vécu.
Et toi, Élodie, est-ce que tu veux bien partager avec nous comment le handicap de tes enfants a affecté, en fait, tes ressources, finalement? Est-ce que ça a eu un effet? Si oui, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à t'adapter un petit peu à ça?
Alors, bien évidemment, ça a impacté mes finances, surtout que comme... l'a précisé Sandra, il a fallu s'adapter. Donc moi, je venais déjà du domaine du médico-social, donc j'ai travaillé depuis 15 ans en réanimation en tant qu'aide-soignante, donc j'étais déjà dans le domaine de la santé, mais j'avais cette grosse difficulté à allier vie professionnelle et voilà, vie privée, et toutes les conséquences en fait que venait apporter le handicap sur les prises en charge du quotidien. Donc, j'ai dû vraiment m'adapter, trouver des solutions qui n'ont pas été simples, hein, je dois le dire, hein, ça fait quoi, 10 ans déjà, pour trouver cet équilibre et pouvoir m'adapter financièrement. Je pense qu'en plus, je suis maman solo, donc célibataire, donc c'était vraiment une grosse charge, et qui n'est toujours d'ailleurs pour moi. Et même pour ma reconversion, on peut pas dire que le milieu du médico-social soit un domaine qui soit, enfin, ce qui est c'est un métier en tension, donc il y a du travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le temps imparti pour retrouver cet équilibre financier, j'ai pas eu le choix en fait que d'entreprendre finalement pour retrouver, comme le disait Sandra, cette couverture sociale. Et être inscrit toujours sur ces listes et avoir un statut finalement dans le milieu professionnel. Donc, on va dire que l'entrepreneuriat s'est présenté à moi finalement comme une solution, même s'il y en a d'autres. Hein, j'en ai découvert d'autres après, par la suite. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est apparu le plus accessible, en tout cas, pour cette prise en charge.
Merci pour ton partage, Élodie. Marie-Émilie, est-ce que tu veux aussi dire quelques mots sur ce sujet?
Bah oui, parce que moi, en fait, je suis après la naissance de mon fils, je suis partie en congé de présence parentale. Sauf que on a découvert son handicap pendant ce congé, et en fait, j'ai été absente pendant quasiment 4 ans de mon entreprise. Et au moment de vouloir revenir, et ben cette absence s'est fait ressentir. En fait, ils avaient évolué, il y avait quasiment tout le service qui avait changé, je ne connaissais quasiment plus personne. Et quand il a fallu demander à moduler mes horaires pour les adapter aux soins de mon fils, bah, ça a été compliqué. Ça a été compliqué à comprendre de leur côté, à se dire qu'une personne qui a été absente aussi longtemps puisse revenir, et ensuite devoir moduler en plus sa présence. Donc en fait, on a préféré se quitter d'un commun accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce travail, je venais de me séparer du père de mon fils, et j'avais déjà un revenu qui n'était pas non plus extrêmement haut. J'avais un revenu médium, donc pas totalement bas, mais pas non plus... voilà, j'avais pas de statut cadre, et je suis complètement tombée dans la précarité, en fait, parce que maman solo d'un enfant handicapé, très compliqué de retrouver un travail derrière avec les problématiques qui vont avec le handicap. Donc j'ai eu un peu cette pression de devoir trouver une rémunération. J'ai pu pendant quelques temps pouvoir compter sur finalement le chômage, vu que j'avais fait un voilà, on s'était séparé d'un commun accord avec mon ancienne entreprise, donc j'ai pu bénéficier du chômage. Mais bon, voilà, c'était vraiment un changement radical de niveau de vie aussi pour moi. Et c'est vrai que l'échéance de la fin de chômage a été un peu compliquée, puisqu'il fallait, pour moi, je me mettais vraiment une très grosse pression pour remplacer un peu ce revenu. Et c'est là que finalement l'entrepreneuriat a été la seule et unique solution que j'ai pu trouver, puisque toutes les entreprises auxquelles j'ai pu postuler, malgré mon expérience, malgré tout, se refusaient à moi, puisqu'il fallait compter sur la modulation de ma présence et de mes horaires, puisque je pouvais compter sur personne, en fait. Personne, à part moi, pouvait garder mon fils. Et au vu du statut que j'avais, c'était aussi très, très compliqué de pouvoir avoir les moyens d'embaucher une nounou, d'embaucher quelqu'un qui puisse lui garder pendant que moi, je travaillais.
Merci d'avoir partagé ça. Enfin, je me reconnais dans beaucoup de vos partages là, parce que il y a énormément d'éléments à prendre en compte là-dedans. Sandra, tu parlais au départ d'un statut cadre et d'un certain confort, de certains revenus qui ont été vus à la baisse. Élodie, tu parlais aussi de voilà ta propre expérience. Comment est-ce que tu as dû gérer cette baisse de revenus, et le fait aussi que tu étais seule, ce qui concerne aussi Marie-Émilie. Donc le fait d'être maman solo, ça vient se rajouter. C'est une couche supplémentaire, comme si on avait besoin que d'autres couches viennent s'ajouter au fur et à mesure. Donc il y a le côté un peu, je dirais, statut non seulement professionnel, mais même aussi social, puisque bon, moi, de mon côté, je n'avais pas non plus de statut cadre, mais j'avais fait 5 ans d'études. Donc, ce côté-là où on a fait des choses pour avoir un statut social et qui nous est entre griffes retiré, et du côté dans ce que Marie-Émilie disait sur l'adaptation que l'employeur veut bien ou ne veut pas, ça met en lumière tout ce qui est absence de politique à ce sujet dans les entreprises. Donc déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas de politique parentalité en entreprise, mais là, il y en a encore moins qui ont des politiques autour de ce qui est aidance. Et comme je disais, beaucoup de personnes sont concernées par l'aidance, il n'y a pas que les parents. Ça, c'est un véritable sujet aussi qui doit être abordé au niveau des entreprises. Moi, j'entends encore mon ancien employeur de l'époque me dire, en gros, on t'a déjà laissé t'absenter pour des rendez-vous médicaux, mais prière de prendre tes rendez-vous médicaux en dehors des heures de travail. J'ai OK, bon, alors comment vous dire que quand on va consulter des spécialistes à l'hôpital, ce sont eux qui nous donnent des convocations, 11, 10 mois à l'avance et qu'on n'a pas trop notre mot à dire là-dessus si on veut accompagner correctement nos enfants. Donc voilà, il y a un réel sujet autour de comment les entreprises s'adaptent à ces réalités. C'est vraiment tout un sujet.
Du coup, par rapport à ça, parce que moi, maintenant, je suis hospitalier, du coup, je faisais partie du corps soignant. Pour le coup, et même au niveau de cette direction, c'était vraiment très compliqué de trouver cette flexibilité au niveau d'accord, de congé ou autre pour les rendez-vous. Et c'est vrai que je pense qu'il manque énormément, même si les politiques handicap d'entreprise existent, mais de sensibilisation sur ce point, en fait, encore.
Oui, donc on a encore pas mal de choses à faire là-dessus. J'avais envie de parler aussi de santé mentale parce que c'est une thématique qui a été un peu mise sur le devant de la scène, notamment avec la crise sanitaire autour du Covid-19. Donc, on a beaucoup parlé de santé mentale, surtout à partir de là. Moi, clairement, découvrir le handicap de mon fils et apprendre à vivre avec, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le sujet de la santé mentale parce que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur moi. Et donc, déjà, en tant qu'aidant, c'est un sujet. En tant qu'entrepreneur, c'est un sujet. En tant que maman solo, c'est un sujet. Voilà. Donc, tout ce qui est autour de la santé mentale qui peut être mise à mal du fait de ce quotidien plein de challenges et l'isolement social aussi qui peut en résulter. Il y a aussi, on en a parlé juste avant, l'éloignement du monde du travail. Comment est-ce que ça a impacté votre quotidien? Est-ce que, Sandra, tu aurais quelque chose à dire autour de la santé mentale?
J'ai envie d'ajouter la santé physique. Je ne sais pas si c'est mon âge.
Tu fais bien. Pas, mais tu fais bien.
J'approche la cinquantaine, même si j'en ai pas l'air. Dans mon expérience, c'est l'isolement social. C'est pas dans ma nature d'être isolée. J'ai toujours été familialement, amicalement très entourée. Et le fait d'être sans solution et d'avoir mon enfant à domicile, donc ma ou isolée. Santé mentale, je me suis souvent demandé pourquoi je n'ai jamais approché le burn-out et la dépression. Je pense que mes projets m'ont aidé en cela pour les éviter. J'insisterai plus dans mon cas sur la santé physique. J'ai un peu l'impression que parce que j'ai tenu mentalement, c'est mon corps qui s'est exprimé. Donc, je suis passée par beaucoup de soucis de santé. Les deux dernières années, je me suis fait opérer trois fois. Maintenant, je m'en suis sortie. Mon mari, là, se fait opérer du dos le 19 mars. Donc, je vais me retrouver multi-aidante, hein, parce que je crois que quand on est parent, on peut très facilement se retrouver à s'occuper de plusieurs proches malades, nos parents, nos enfants et nos conjoints si la santé n'est pas présente. J'ai malgré tout réussi à mettre en place du lien qui, je pense, hormis évidemment la charge mentale, m'a protégée d'un burn-out ou d'une dépression comme je peux voir pour beaucoup d'aidants.
D'accord, oui. Tu fais bien de parler de santé aussi tout court, hein, santé physique, parce que c'est lié, hein, clairement, et quelque part, on somatise aussi énormément. Donc, c'est un réel sujet. Et c'est aussi, je pense, une des raisons qui t'a poussé, je ne voudrais pas m'exprimer à ta place, hein, à créer Prochain Air et de se dire que finalement, pour les personnes qui sont un peu seules, pour les personnes qui sont un peu en difficulté au niveau justement de se sentir seules et un peu déprimées, ben, le fait de pouvoir échanger avec des pairs, c'est forcément quelque chose qui fait du bien au moral.
Oui, tout à fait, Lauriane. C'est un accompagnement entre pairs, c'est un accompagnement technique. Hein. Entreprendre suscite des compétences transversales qu'il faut savoir parfois aller chercher, hein, parce que on parle souvent de confiance en soi, mais quand on arrête de travailler, cette confiance en soi, elle prend un coup. Hein.
On est arrivé à parfois un point où on ne sait même plus se définir ou quoi répondre quand on nous demande quel emploi ou quel statut on occupe dans une vie. Donc oui, Prochaine Aide est là pour ça, pour créer un réseau d'entraide, d'accompagnement et pour visibiliser. On parle beaucoup du sujet des salariés aidants et c'est tant mieux, mais on parle très peu des aidants entrepreneurs. Moi, j'ai géré un tiers-lieu quand j'ai eu une hospitalisation ou à un moment j'ai connu un essai clinique. Je fermais mon entreprise. Je n'avais pas de chiffre d'affaires et encore une fois, nous, parce que j'ai mis les œufs dans le même panier avec mon mari, donc on est deux à être concernés, on a assumé cette difficulté et cette conciliation. Donc, même si on nous félicite, c'est bon pour l'ego, mais je tiens à dire qu'on se retrouve d'autant plus seul à tout assumer. Les dispositifs sont ça peut orienter vers les aidants entrepreneurs.
Merci, merci Sandra de souligner tout ça. Élodie, est-ce que tu as envie de dire quelque chose concernant la santé mentale?
Ben moi, du coup, j'ai frôlé par contre le burn-out, effectivement. Je ne m'en cache pas. La période avant la reconversion a été très complexe, surtout dans le milieu hospitalier, hein, du coup. Et puis, ben, l'annonce du handicap, voilà, j'ai mis un peu de temps du coup à remonter on va dire cette période. On va dire que comme le disait Sandra également, c'est ce qui m'a permis de sortir de tout ça, c'est les projets aussi qui sont venus finalement après cette longue période de burn-out et le fait aussi d'être bien entourée familialement et ne pas être dans les hommes parce que je suis quand même aussi quelqu'un qui avait quand même une vie sociale quand même important malgré que le handicap, ben les circonstances ont fait que on devient isolé finalement par rapport à la condition et le manque peut-être de moyens, de dispositifs autour. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose où, enfin, quand même de primordial et qui va venir toucher finalement très facilement les dents, en fait, parce que on va se retrouver sur cette charge mentale où on va être accablé par les différents soucis d'une vie et cet équilibre, s'il est pris à mal, va vite se déséquilibrer si justement on ne fait pas attention à trouver ces différentes avenues. Donc c'est vrai que pour moi, la difficulté a été de trouver ce juste milieu, voilà, pour rebondir. Et je dirais que les projets, finalement, sont venus par la suite avec les accompagnements, soutenir et structurer cette reconversion et puis cette situation de burn-out dans laquelle je suis sortie maintenant.
Donc, en fait, rester finalement en mouvement, dans l'action, en activité, toujours être en train de construire quelque chose, ça aide aussi à ne pas rester dans son coin à broyer du noir. C'est quelque chose que moi aussi, j'ai pu expérimenter pour ma part. Et Élodie, c'est certainement aussi l'idée qu'il y avait derrière les ateliers que tu peux bien proposer avec les jardins d'Opipa, puisque l'objet de l'association, c'est le bien-être et le répit des aidants. Et c'est l'idée, voilà, pour prendre soin d'eux et de leur santé mentale, finalement.
Oui, et puis ben cette pause aussi, finalement, qu'on ne s'octroie pas forcément quand on est aidant, parce que soit je parle en général, en tout cas pour la plupart des personnes, en tout cas qui arrivent au sein de l'association, c'est ce sentiment que t'as l'unité de prendre soin de soi, finalement, c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément le temps de prendre soin de soi non plus, ni la capacité de le faire en plus, parce que ben, des fois, des choses simples, ou peut-être des choses qui font rêver, on va dire, au niveau du répit, ne sont pas possibles, mais ne serait-ce que peut-être être entouré, discuter et partager tout simplement une tasse de thé avec des amis et se sentir écouté, rien que ça déjà fait partie d'un instant de répit et puis peut-être se reconnecter à soi et se reconnecter à ses propres besoins. Finalement, c'est le temps que l'aidant ne prend pas forcément tout de suite en compte. Et du coup, ces ateliers sont là justement pour pouvoir repenser cette connexion à soi.
Tu as dit plein de choses qui font vraiment sens. Marie-Émilie, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur la santé mentale?
Oui, parce que en fait, on parle beaucoup du burn-out. Et moi, en fait, je n'ai pas fait un burn-out, mais j'ai fait un bore-out. Le bore-out, c'est le moment où, en fait, il n'y a plus rien à faire et qu'on s'ennuie. Et ça peut paraître un peu bizarre quand on est aidante. Et pourtant, en fait, j'avais commencé déjà à être un peu isolée socialement à la naissance de mon fils. Je me suis, pendant mon congé de présence parentale, totalement jouée à lui, occupée de lui. C'était lui matin et soir. Et à l'annonce de son handicap, bah, ça a été encore pire, en fait. Donc, je me suis mis en congé de présence parentale. Donc, voilà, je n'allais plus travailler, mais on était vraiment dans la course de trouver les thérapeutes, d'aller au rendez-vous. Enfin, voilà, souvent, je le dis, j'ai été sa coiffeuse, son orthophoniste, son éducatrice P. J'ai été toutes ces personnes. Je me suis formée à pallier les manques parfois de thérapeutes parce que, voilà, on ne trouvait personne, etc. Et donc, j'ai passé mon temps à ne faire que ça. Et puis, un jour, après m'être assez battue pour qu'il puisse aller à l'école de façon convenable et pendant vraiment de bonnes heures, je me suis retrouvée seule à la maison, à ne plus avoir mon fils dont je devais m'occuper et finalement, à ne plus savoir quoi faire de moi. Et comme je ne pouvais pas non plus retourner travailler puisque, on s'était séparés, comme je le disais tout à l'heure. Ça a été extrêmement compliqué puisque j'étais déjà tombée dans l'isolement social avec la naissance de mon fils. Le handicap peut parfois faire peur et vous éloigner de certaines personnes. Et puis le temps aussi, vous êtes prise par le temps parce que vous devez appeler à droite à gauche, parce que vous devez courir à droite à gauche pour les rendez-vous, etc. Et je me suis vraiment retrouvée un peu bête en me disant bah voilà, maintenant j'ai plus rien à faire. Et ça a été la dépression totale. Et au final, ça a été l'entrepreneuriat qui a tout changé, puisque je me suis retrouvée à avoir de l'interaction sociale beaucoup plus que ce que j'avais, autre que ceux des thérapeutes de mon fils, autre que des médecins, autre que d'autres personnes qui faisaient partie. En fin de compte, je ne vivais qu'à travers mon fils, je n'étais que sa mère, je n'étais que son aidante. Et l'entrepreneuriat m'a permis de reprendre aussi ma place en tant que personne. Et en tant que professionnelle, aujourd'hui, l'isolement est encore là. Je suis très isolée socialement. Heureusement, j'ai trouvé des besties, comme j'aime les appeler, qui sont digitales, virtuelles et assez éloignées, mais qui me permettent d'avoir une vraie vie sociale, d'avoir une vraie écoute. Et c'est ce qui me manquait réellement au moment où j'ai fait mon burn-out et au moment où, encore aujourd'hui, le physique me manque beaucoup. La présence physique de d'autres personnes, pouvoir discuter de tout et de rien, de choses professionnelles, de choses personnelles, etc. Mais voilà, j'ai quand même ce côté un peu virtuel qui me permet de pallier un peu ça. Mais c'est vrai que c'est parfois en temps de scie parce que le virtuel ne remplace jamais le réel. Et pouvoir, comme le disait Jean-Louis, prendre une tasse de café, une tasse de thé, ou même aller juste en terrasse avec quelqu'un, c'est quelque chose qui au bout d'un moment peut manquer quand on est non-stop, soit dans son travail, soit dans le fait de s'occuper de son enfant et qui peut avoir des préjudices sur le côté psychologique. Voilà, on essaye de pallier les choses, mais parfois c'est extrêmement compliqué.
Le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous avant qu'on puisse donner la parole aux personnes qui nous écoutent, si jamais elles souhaitent participer, c'était celui de l'accès à l'école, au mode de garde et aux loisirs. Donc, c'est vrai que c'est déjà un sujet pour les parents parce que plusieurs parents dans certaines régions, notamment en Île-de-France, moi, j'en ai parmi mes connaissances, qui se sont retrouvés coincés chez elles. Puisqu'elle n'arrivait pas à trouver de place en crèche. Donc déjà, ce sujet de mode de garde concerne déjà un petit peu tous les parents. Mais quand on est parent d'un enfant qui a des besoins particuliers, eh bien, on a encore cette difficulté supplémentaire qui est que peu de structures sont habilitées à recevoir, à encadrer, à accompagner, à aider nos enfants. Donc, tout ce qui est autour, voilà, de l'école, des modes de garde, des loisirs. Je suis partante. Ça m'intéresse beaucoup d'entendre un petit peu vos expériences par rapport à tout ça. Sandra, est-ce que tu veux commencer?
Oui, bien sûr. Donc, pour ma part, Émile n'a jamais été scolarisé. C'est vraiment une grande absence dans mon trajet. En tant que présidente d'association, c'est un sujet pardon, que je suis beaucoup. Ce que je trouve, on va dire, déplorable, c'est que je connais, j'ai identifié des solutions proposées, mais elles ont du mal à être soutenues par les territoires. Je pense notamment à toutes les difficultés qu'ont connues des associations comme Du Fun pour tous pour créer et maintenir un centre de loisirs adapté. Il a d'ailleurs témoigné dans notre documentaire. Je pense à Awa et Maïmouna qui ont créé des micro-crèches adaptées. Donc, les profils existent, les personnalités existent, elles sont sensibilisées. Mais encore une fois, et parce que ce sont des sujets qui sont décidés par les services publics, on reste dépendant de leurs décisions. Et en fonction des territoires, c'est très disparate. Donc, en effet, on peut avoir des propositions qui vont vraiment différer, tout simplement, en fonction du lieu que vous êtes. Pour ma part, ça a été la grande absence et du coup, je pourrais pas en parler longuement. J'ai dû faire avec, j'ai dû, et certainement pour cette raison que j'ai fait appel à des services d'aide à la personne. Et ensuite, mon fils est entré en institution assez tard, après 12 ans. Pour reconnaître un minimum de lien social, parce que j'estimais que la place d'un enfant à domicile pendant 12 ans n'était pas la sienne. Donc, c'est plus là un discours de présidente d'association que je vous tiens et de déception concernant le manque de soutien, de solutions proposées, encore une fois, par des personnes concernées. Je pense que sur le terrain, les acteurs public devrait se saisir, car la question du mode de garde, de la scolarité, du loisir, forcément impacte, et on l'a vu sur nos vies professionnelles.
Merci Sandra, tu disais que tu ne l'avais pas expérimenté, mais justement, le fait que tu ne l'as pas expérimenté, c'est quelque chose d'important à souligner. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à dire aussi sur ce sujet?
Oui, bien évidemment. Alors, on va dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir bénéficié finalement de structures adaptées pour mes enfants. Donc, et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Mais c'est vrai que selon les territoires et la disparité de certains dispositifs, tout le monde, toute commune et tout quartier ne sont pas forcément outillés de la même façon. Il y a aussi toutes ces informations, ces listes d'attente interminables pour pouvoir accéder à ces dispositifs. C'est une grande difficulté hein, au niveau des pouvoirs publics par rapport à ça. On le sait très bien, on n'a pas pu faire justement ces discussions-là. Et c'est vrai qu'il y a des projets, il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore assez déployées et accessibles partout, surtout au niveau de la scolarité, du loisir également, énormément du loisir, du sport adapté. Toutes ces accès à la vie citoyenne, finalement, ne sont pas des couloirs, on va dire ordinaires et faciles pour nous, parents, qui ont des enfants à besoins spécifiques, finalement. Donc, tout va être beaucoup plus... plus dur, un parcours beaucoup plus long, et même en ayant eu cette chance finalement d'avoir pu accéder à certains services, ça a toujours été un long combat avec les institutions, avec les autorités, les instances publiques, les dossiers administratifs, voilà. Donc, et c'est ce qui s'en ressort également par rapport aux bénéficiaires de l'association. Souvent, ils viennent vers nous pour ce premier besoin, justement, de pouvoir les accompagner à cette accessibilité.
Merci, Élodie. Marie-Émilie, est-ce que tu veux bien clôturer sur ce sujet de l'école, des modes de garde et de loisirs?
Eh bien, avec plaisir.
parce que moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Il faut se souvenir que mon fils est non oralisant et en fait, il a des difficultés de communication. Et malgré tout, j'ai toujours eu l'école, le centre de loisirs, la cantine. Je n'ai jamais eu de difficulté par rapport à lui. En maternelle, il était dans une classe avec les autres enfants avec une AESH. Aujourd'hui, il est en élémentaire dans une classe ULIS. Il a accès au centre de loisirs. Il a accès aux accueils du mercredi. Il a accès à la cantine. Et je fais un gros big up à tout le périscolaire. Est-ce qu'ils sont, depuis la maternelle, adorables avec mon fils, plein de compréhension, plein de bienveillance. Je crois que je suis la seule mère qui va chercher son gamin avec les larmes aux yeux à chaque fois qu'il y a les enfants qui arrivent et qui font coucou à mon fils et qui... Enfin, mon fils a plus de vie sociale que moi. On marche dans la rue, on va dans un magasin. Je pense plein de gens qui m'interpellent et je me dis, mais qui est cette personne qui te connaît alors que moi, je ne connais pas cette personne. Et c'est un vrai bonheur, en fait, parce que moi, j'en ai les larmes aux yeux, parce que je sais à quel point d'autres personnes dans ma propre ville ont des difficultés d'accueil, se battent tous les jours pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, au centre de loisirs, ou même avoir un accès à la cantine, alors que je le vois à quel point mon fils, malgré le fait qu'il n'y ait pas de communication avec les autres enfants, du moins, il ne se parle pas, mon fils n'a pas de, voilà, il n'a pas de PEX, il n'y a rien pour l'instant parce qu'on ne trouve pas de moyen de communication pour lui. Et malgré tout, de le voir avec les autres enfants, de voir qu'il vient interagir avec lui, c'est, pour mon cœur de mère aidante, c'est vraiment exceptionnel. Je remercie tous les enfants qui sont là, plein de bienveillance envers mon fils, tout le périscolaire et toute l'équipe pédagogique qui fait... Oui, j'en profite pour faire des dédicaces. Mais c'est tellement rare. Je pense que c'est bon de le souligner parce que je ne sais pas en fait combien de temps ça va durer. En fait, là, actuellement, je profite de ces moments-là parce que ma plus grande peur reste le collège, le lycée et pour la suite, parce qu'aujourd'hui, si je peux travailler, si je peux faire ce que je fais pour mes clientes, c'est parce qu'il va à l'école, c'est parce qu'il y a ces moments d'accueil. Je n'ai pas de moyen de répit pour le week-end, mais je me dis qu'importe, tant qu'il va à l'école, tant qu'il est accueilli, parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une rémunération parce que je travaille. Et malheureusement, le jour où ils me disent stop, je sais aussi que mon entreprise, c'est stop. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement sensible pour moi. Et je sais aussi à quel point j'ai de la chance de pouvoir bénéficier de tout ça.
C'est très précieux. C'est fantastique. Il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Quand la situation se présentera, si ça se trouve, tu trouveras une solution. Donc, tu as bien raison de profiter pour l'instant. Et ensuite, tu pourras voir quand le moment arrivera. Je vous remercie toutes les trois pour tous les partages que vous avez faits avec nous aujourd'hui. Et je voudrais aussi inviter les personnes qui nous écoutent, déjà les remercier parce qu'on a été longues. Hein. Donc, merci d'être restées là jusqu'à la fin. Et sachez que vous êtes les bienvenus pour participer. Si jamais vous voulez demander la parole, vous pouvez l'obtenir afin que nous puissions poursuivre l'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les trois, à toutes les intervenantes. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutées.
Merci à toi.
Merci à toi surtout.
Merci à toutes. Merci Lauriane.
Bonjour Pascaline.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Parfaitement.
Écoutez, en fait, je voulais juste vous remercier. Je suis émue de vous avoir tout écouté et de vos histoires, en fait, dans lesquelles je me retrouve complètement. Et je me sens moins seule, en fait. Donc, ça fait plaisir d'écouter des personnes qui sont dans le même cas et on ne leur donne pas assez la parole, en fait. Donc, je voulais avant tout vous remercier ça. Après, voilà, moi, je suis maman entrepreneuse aussi. J'ai un garçon de 11 ans qui a un trouble du spectre autistique. Donc, lui, il n'y a pas de problème de communication, ça va être plus sur le comportement. Et donc, je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit, dans le parcours. J'ai l'impression qu'on passe toutes par les mêmes étapes un petit peu, c'est-à-dire On était salariés, le diagnostic tombe, on arrête de travailler, après on a une phase de burn-out et puis on s'en sort et puis on a envie de faire autre chose, on a des projets, enfin c'est... Merci dans ton cas, je ne sais pas quoi dire.
C'est vrai. Merci Pascaline de partager ton témoignage avec nous. Et oui, on commence un petit peu à en parler, mais je pense que justement, plus on en parlera, plus ça facilitera les choses et plus éventuellement on arrivera à obtenir des choses pour nous aussi. Parce que clairement, ce n'est pas évident de parler. Du handicap de son enfant, c'est pas évident de parler des difficultés qu'on rencontre, surtout dans tout ce qui est entrepreneuriat, essentiellement en ligne. C'est un peu, on voit un peu les autres, notamment sur LinkedIn, on est beaucoup sur comment faire 10K par mois, 50K par mois, voilà. On est un peu dans tout cette, tout ce truc-là. Se dire que il y a autre chose, il y a une autre réalité, il y a d'autres personnes qui vivent des quotidiens qui sont moins évidents et justement prendre la parole parce que c'est aussi la réalité. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cet échange aujourd'hui.
Juste pour information, là c'est juste un projet, c'est que moi j'aimerais créer un podcast en fait où je donnerais la parole justement aux parents aidants. Et notamment aux parents aidants avec des enfants ayant un handicap invisible. C'est des parents qu'on n'entend pas et
oui.
Pour être concernée, je sais à quel point c'est difficile.
Eh bien,
voilà, c'est pour l'instant c'est une ébauche, c'est juste un projet, mais de là, je veux dire, c'est mon
ouais.
plaisir de aussi de donner la parole à ses parents. Ils ne sont pas forcément écoutés ni entendus.
Eh bien, tu as bien raison et c'est un très beau projet. Et voilà, n'hésite pas si jamais tu veux recontacter, nous recontacter suite à ça pour poursuivre la conversation. Mais voilà, très beau projet et j'espère qu'il verra prochainement le jour. Merci Pascaline. Bonjour Yvette.
Bonjour. Alors déjà, je voudrais dire bravo, un grand bravo à vous toutes. Hein, et puis un grand merci pour cette conférence très riche. Quand je vous ai écouté vos récits respectifs, c'est pareil, j'ai l'impression de m'entendre moi-même en fait. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'on est nombreuses en fait dans ce même bateau, comme on dit. Et voilà, tout ce qui a été dit, c'est tellement riche et émouvant, là, chacune de nos parcours, mais avec beaucoup de similitudes sur les étapes en fait qu'on a traversées. De mon côté, moi, je suis maman d'un jeune polyhandicapé qui a une maladie orpheline et avec des douleurs très très intenses. Et voilà, ça fait 26 ans, 25 ans qu'il est devenu handicapé suite à cette maladie-là. Et sur ce chemin-là, justement, j'ai rencontré des gens comme vous, des soignants formidables, des gens aussi qui se sont écroulés. Puis je me suis écroulée aussi à certains moments de ce parcours. J'ai été relevée. Et puis toute cette, j'estime que c'est une richesse avec ensuite les formations que j'ai suivies. Ça me permet aujourd'hui d'accompagner les autres, d'être une oreille écoutante, une poitrine pour pleurer parfois pour les autres. Et voilà, je me sens tellement riche quand je vous entends et je suis admirative de chacune de vous, de vos parcours, de vos enfants. Je les visualise depuis ma conférence, vos enfants, tout mignons, recevant votre amour chaque jour. Et voilà, ça, c'est notre richesse à tous.
Merci beaucoup, Yvette, pour ce partage qui est très touchant parce que nous, nos enfants sont quand même... à part qu'Emile, qui est quand même un peu plus grand, mais voilà, ils sont encore petits. Donc, c'est vrai de se dire que finalement, on continue à évoluer en même temps que nos enfants grandissent. Et c'est un travail qui est en continu pour toute notre vie, en fait, finalement. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec
tout
nous.
À fait, on grandit.
C'est ça.
On grandit avec eux. Ça me rappelle une anecdote dans des groupes de parole qu'on avait. Oui, alors toi, ton enfant à quel âge? Alors, mon enfant a 4 ans. Puis, quand je dis que mon enfant est tel l'âge, là, il a 26 ans, mais à l'époque, il avait que 20 ans. Ah oui, 20 ans des dents, ça, t'es plus grande que moi, hein.
C'est ça, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ce qui se dit.
Merci, merci beaucoup. Et voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me demander en connexion si jamais on n'est pas encore connecté, et avec plaisir pour échanger avec vous. N'hésitez pas à suivre aussi Sandra, Elodie et Marie-Émilie pour voir un petit peu ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, ce qu'elles abordent comme sujet. Et voilà, une bonne fin de journée, bon après-midi à toutes et merci encore.
Ben merci à vous, merci à toutes pour vos témoignages. C'était très émouvant également. Merci Lauriane.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, plusieurs options s'offrent à toi. Et dans tous les cas, je te remercie d'avance. Tu peux laisser des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partager en me taguant sur les réseaux sociaux et même en transférer directement le lien à tes proches que le sujet pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin sur les thèmes abordés dans le podcast, inscris-toi à la newsletter sur orema.fr/newsletter et reçois le mail du lundi pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables pour mieux communiquer. Ton inscription te donne aussi accès à la boîte à succès des mères entrepreneurs, une bibliothèque de plus de 30 ressources pour optimiser ta communication et tendre vers un meilleur équilibre vie pro-vie familiale. Enfin, rejoins-nous sur Instagram @orema-communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.